Bonsoir. 80 km/h sur 400 000 km de route, c'est l'une des mesures choc annoncées ce soir par le Premier ministre Édouard Philippe. Oui, il y a de plus en plus d'accidents, de plus en plus de tués. Alors au-delà du fait de se poser la question, de s'interroger sur l'efficacité de la mesure, l'opportunité, est-ce qu'elle est populaire ou pas? Il faut savoir que l'insécurité routière en France, elle coûte quelques dizaines de milliards d'euros, face auxquels, tant bien que mal, on essaye de mettre des infrastructures plus sûres, des véhicules plus performants, véhicules connectés peut-être à terme. Et puis la répression avec des limitations, des sanctions, des radars. Alors justement, ne dépense-t-on pas trop? Est-ce qu'on prend vraiment les bonnes mesures? Ne fait-on pas fausse route contre les accidents? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ouais, sujet de l'actualité qu'on va traiter sur BFM Business au travers de chiffres, évidemment, de l'impact économique des accidents. Oui, est-ce qu'on arrive toujours à le quantifier, à le mesurer? On va en parler notamment avec François Eckhall, ancien magistrat de la Cour des comptes, qui dirige et qui a créé son site d'information économique spécialisé dans les finances publiques. Philippe Mangeard, lui, grand spécialiste des transports, il est à la tête de son agence de notation TK Blue, spécialisée notamment dans le transport, dans l'environnement. Frédéric Bizard, économiste de la santé, spécialisé dans la protection sociale. Christophe Ramon, directeur des études et des recherches à la prévention routière. Et puis l'ingénieur François Stéphan, directeur général adjoint de Systemix, installé à Saclay, qui planche notamment sur tout ce qui est route connectée, véhicules connectés. On y reviendra évidemment. Alors, le plan du gouvernement, c'était tout à l'heure ce mardi soir, aux environs de 18h, Édouard Philippe, le Premier ministre, qui annonce pêle-mêle 18 mesures pour développer l'installation d'éthylotests anti-démarrage pour les personnes prises déjà en état d'alcoolémie, sanctionner plus durement l'usage du téléphone tenu en main si jamais il y a une infraction commise. Le permis pourra être suspendu. L'abaissement au 1er juillet, donc, de 90 km/h à 80 km/h, la vitesse maximale autorisée sur les routes à double sens, sans séparateur central. 18 mesures pour agir, donc, je cite le Premier ministre, sur le comportement. Tiens, comportement, est-ce que c'est la bonne optique, François Stéphan?
Je trouve ça intéressant parce que 90% des accidents sont causés par le comportement du conducteur, oui. Donc je crois que c'est la bonne façon de faire.
Donc c'est cohérent.
C'est cohérent, et on voit bien que les évolutions technologiques dont on parlera sans doute visent à progressivement enlever ce comportement du conducteur. On va vers la voiture autonome qui sera connectée, électrique, sûre, etc. Donc on y va, ça va prendre plusieurs années, mais ça va prendre 10, 15, 20 ans. D'ici là, qu'est-ce qu'on fait pour réduire les accidents? Donc je crois que c'est bien la question.
Oui. Bon, justement, on va se poser ces questions. Justement, fait-on fausse route contre les accidents? Tiens, prenons cette mesure choc, je le disais, les 80 km/h. Alors, je dis, on va pas s'interroger sur le fait de savoir si c'est bien, si c'est mal, si ça sera efficace, simplement. Mais ce qu'on entend beaucoup parmi les opposants, c'est notamment Gilles Savary, l'ancien député, président du groupe Mobilité, qui nous dit la sécurité routière, elle est trop associée à la politique du tiroir-caisse. Édouard Philippe le disait ce soir, il n'y a pas de motivation financière. Tiens, pour répondre aux accusations de tiroir-caisse, François Eckhall, vous qui planchez sur les finances publiques, que dire du 1,8 milliard d'euros générés par les PV, par les radars en France chaque année?
Alors en effet, les amendes génèrent 1,8 milliard d'euros, dont la moitié en effet viennent des radars. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques. C'est 1200 milliards d'euros, les dépenses publiques. Donc, d'un autre côté, les impôts, les cotisations sociales. C'est un millième du total. Donc, c'est certainement pas pour des raisons de finances publiques et pour améliorer, pour réduire le déficit public que l'on fait ça. Je suis persuadé que ce n'est pas la bonne raison. Ce n'est pas la raison.
Ouais, Édouard Philippe, il le dit, le surplus de recettes de PV, donc lié justement à ces routes à 80 km/h, ira intégralement aux accidentés. À quoi sont affectées en général les recettes des radars, des PV? Tiens, François Eckhall et puis Christophe Ramon de la prévention routière.
Les 1,8 milliard qui en effet représentent le produit des amendes représentent à peu près seulement la moitié des dépenses de l'État en faveur de l'amélioration de la sécurité routière. C'est à peu près 3,5 milliards. Donc oui, on est même pas à peine la moitié. C'est 3,5 milliards. C'est 1,5 milliard à peu près d'euros de dépenses de police et de gendarmerie. Parce que il y a la police de la circulation, il faut bien payer les gendarmes et les policiers. Puis vous avez 1 milliard d'euros pour les services du ministère de l'équipement, c'est les travaux d'entretien de la voirie, de mise en place d'équipements, les panneaux, etc. Tout ça améliore la sécurité routière et le reste est disséminé entre les ministères. Donc non, même si on augmente le produit des amendes, on n'arrivera pas à couvrir ne serait-ce que ce que l'État dépense en faveur de la sécurité routière. Et si on prend le total des dépenses de l'État en faveur de la route, c'est bien plus que ça.
On va y revenir justement, le coût de l'insécurité routière dont on dit, et c'est le gouvernement lui-même qui parle de 40 milliards d'euros. Tiens, juste puisqu'on parle argent ce soir, 20 000 panneaux à changer, de 90 km/h à 80 km/h, 80 euros le panneau, faites le calcul, 1 600 000. Voilà, 1 600 000 pour changer tous les panneaux, c'est pas très très important. Christophe Ramon, la prévention routière.
Oui, d'ailleurs, quand on parle de 40 milliards pour le coût de l'insécurité routière, on n'inclut pas le coût des réparations des voitures. Oui. Hein, il y a environ 2 millions d'accidents qui sont déclarés aux assureurs et ça représente plus de 10 milliards. Donc au total, c'est près de 50 milliards qui sont attribués
aux accidents. On va y revenir, mais sur l'affectation des recettes, des radars, des PV en ville, c'est Chantal Perrichon, la Ligue contre la violence routière, qui dit « La véritable pédagogie serait de reverser 100% du montant des contraventions et des actions de sécurité routière pour financer eh bien, le permis de conduire des jeunes, des familles les plus modestes, pour éviter le secours exorbitant qui fait que on dit que 1 à 2 millions de personnes circulent sans permis de conduire en ce moment. Bon, on est loin du compte, disait François Eckel quand même. Hein.
Oui, ça serait une bonne chose, bien sûr, d'attribuer cet argent aux actions de prévention routière, bien sûr.
François Eckel.
Je vais peut-être revenir sur ce sujet, parce que la raison pour laquelle ces gens disent qu'en effet, l'argent ne va pas à la sécurité routière, c'est parce que c'est 1,8 milliard sont affectés dans un compte qu'on appelle dans le budget de l'État, ils sont isolés. Ils sont mis dans ce qu'on appelle un compte d'affectation spéciale, et les dépenses en face de ces ressources, il y a des dépenses de sécurité routière, en effet, il y a des subventions aux collectivités locales pour qu'elles améliorent la sécurité, etc. Mais une partie de ces ressources, il est vrai, va à ce qu'on appelle le budget général de l'État. Et là, elles sont fondues dans l'ensemble des recettes de l'État. Mais elles servent parce qu'on ne peut pas isoler vraiment comptablement les dépenses. Je prenais l'exemple de la police et de la gendarmerie.
Bien sûr,
c'est 1,5 milliard.
Bien sûr.
Donc on ne va pas mettre, enfin pour des raisons techniques et comptables, on ne peut pas mettre dans ce compte d'affectation la paye des gendarmes et des policiers. La paye des gendarmes et des policiers, elle est ailleurs. Mais donc, il y a bien, ces ressources vont bien aux dépenses en faveur de la sécurité. Elles sont même nettement inférieures. Elles n'en font que la moitié. Mais techniquement, en effet, dans ce compte, il y a une partie des ressources qui est affectée au budget général. Mais au budget général, ça sert à payer, entre autres, les rémunérations des policiers et des gendarmes.
Philippe Mangeur.
Votre émission s'appelle « Fait-on fausse route
?»
par rapport à la limitation de vitesse.
Donc, par rapport en général à toutes les politiques.
Ça veut dire, pour qu'est-ce lutter que ça rapporte la sécurité. Qu'est-ce que ça coûte?
Exact.
Que ça coûte pas grand-chose, peut-être quelques points de notoriété en moins pour M. Édouard Philippe, qui est vivement critiqué, on le voit sur les réseaux sociaux ce soir, par les activistes de la vitesse. Mais au niveau économique, c'est plutôt embêtant. C'est plutôt embêtant parce que si vous prenez aujourd'hui le différentiel de circulation qui est entre une voiture et un camion sur autoroute, ça passe très bien, on peut doubler, etc. Mais sur route nationale, si vous avez des camions et des voitures qui roulent à la même vitesse, vous ne pouvez plus jamais doubler les camions. Donc vous allez avoir des empilements terribles de voitures derrière les camions, ça va ralentir globalement le trafic. Ça, c'est la version négative. La version positive, c'est que le principal utilité sociale de la route, aujourd'hui, c'est le transport de marchandises.
Oui.
Ce sont les camions. À la limite, ils devraient être les rois. Et bien, en mettant cette vitesse à 80 km/h, on rétablit le camion comme le roi de la route, parce que c'est lui qui fixe la cadence. C'est lui qui fixe la vitesse. Alors, encore un élément négatif à l'envers.
Sauf Philippe Mangeur, pour certains transports de matières dangereuses, où là, de toute façon, ils vont conduire 20 km/h de moins que ces 80, donc 60 km/h. Et ce qui fait dire d'ailleurs à la FNTR, la grosse fédération patronale, que évidemment tout ça va entraîner une surconsommation de gasoil, évidemment tout ça va plomber.
Alors, la surconsommation de gasoil, c'est une affaire totalement mécanique. Les moteurs sont réglés pour tourner à 80 km/h avec une optimisation. Vous les passez à 70 qu'à 60, vous consommez beaucoup plus de carburant.
Voilà.
Bon, le temps de trajet. On peut faire des calculs idiots du professeur Charlie. Aujourd'hui, le temps perdu, c'est à peu près 18 euros, une heure, sur un trajet de 700-800 km. Le coût induit, en termes d'augmentation de carburant, si on veut bien le considérer comme tel, d'accident, si on veut bien le considérer comme tel, c'est même pas le quart. Donc, c'est-à-dire, on peut faire des calculs idiots, du genre, mais c'est complètement idiot, faut accélérer à 200 à l'heure, on va gagner du temps, donc gagner de l'argent. Donc, vous voyez, c'est un débat qui est vraiment un débat de politique, donc il est normal que le politique s'en empare, Édouard Philippe, mais derrière ça, il faut considérer les conséquences économiques Aujourd'hui, il y a des gens qui font des trajets en 7 heures, qui vont bientôt les faire en 8 heures. Ça va changer la rupture. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont se retrouver enquillés derrière 20 voitures, derrière un camion. Donc, qui va doubler? Qui va prendre le risque de doubler en passant 90, 100, 20 voitures d'un coup? On va être derrière un camion derrière lequel on ne voit rien, notamment en temps de pluie. C'est pas pratique, etc. Donc, il faut aller faire cette décision de réduire les accidents par la vitesse, mais je pense que si on veut réduire les accidents, on peut aussi réduire les accidents ménagers. Il y a 20 000 morts par an. On peut réduire les accidents de la pollution. Moi, je dirige une agence de notation de l'environnement. Il y a 48 000 morts par an de particules. On pourrait faire un effort sur les particules et imposer des camions Euro 6, des camions...
Mais quand on lève le pied, les automobilistes, finalement, c'est ce que le gouvernement dit, pourraient réduire jusqu'à 30% les émissions de polluants et réduire leur consommation. Vrai ou faux, Philippe Mangin?
C'est pas vrai du tout.
Bon.
C'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, la stabilisation des consommations et des camions et des voitures, entre 80 et 90 km/h, elle est de l'ordre du pouillème pour cent. C'est pas moi qui le dis, ce sont les constructeurs. Et c'est des chiffres que j'ai vus cet après-midi. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut prendre des mesures de cette nature, parce que qu'est-ce qui va se passer? Tiens, un détail intéressant, les compteurs de voitures sont mal calibrés, les compteurs des camions sont très bien calibrés. Quand un camion roule à 80 km/h, il roule à 80 km/h.
Et les voitures?
Quand une voiture roule à 80 km/h sur le compteur, elle roule généralement à 74.
Ah bon?
Mais oui, parce qu'il y a des marges de sécurité que prennent les constructeurs auto pour pas que les gens soient pris en infraction.
Ah.
Donc, vous allez avoir un espèce d'entassement de gens qui sont supposés rouler à la même vitesse, mais qui ne rouleront pas à la même vitesse. Ça va pas être simple, mais au niveau du bilan CO2, c'est bien de le dire, mais c'est à peu près faux par rapport aux optimisations des boîtes à vitesse. Ça sera vrai dans 5 ans quand on aura changé les rapports des boîtes de vitesse.
Bon, ça use moins les routes de rouler à 10 km/h de moins.
Ça use moins les routes, bon, ça
c'est moins de vertu. Voilà.
C'est pas une vertu.
Frédéric Bizarre.
Oui, alors moi je suis frappé par d'abord dans les différentes annonces, il y en a certaines qui vont dans le bon sens et d'ailleurs pas assez loin. On peut prendre le cas de l'alcool, on peut prendre le cas de l'iPhone, je pense qu'il faut être on peut aller encore bien plus loin. Je serais plutôt favorable à supprimer toute possibilité de consommation d'alcool. Je pense qu'avec l'iPhone, il y a des vraies mesures beaucoup plus fortes qui doivent être prises. Donc ça, je pense que bon. Ça va dans le bon sens. Par contre, je suis beaucoup
plus
sceptique
au-delà des mesures du gouvernement.
Je suis sceptique sur la limitation de ou tiens, peut-être en tant que scientifique, on aimerait bien avoir un peu de rationalité. Est-ce que véritablement on a les preuves que ça va avoir un impact? Aujourd'hui, on n'en a pas. Et on voit un effet un peu de posture politique où on prend un peu l'habit du héros en disant je suis prêt à être très impopulaire parce que je fais le bien pour le bien. Mais et ça c'est vrai pour toute la santé publique, c'est que il faut convaincre les gens parce que tout le monde a envie plutôt de rester en bonne santé, de rester vivant. Donc c'est une question de conviction à partir d'arguments qui doivent être à mon avis en partie rationnels.
Frédéric Bizarre, vous venez régulièrement dans les décodeurs de l'écho, plancher soit une fois sur le tabac, soit sur l'alcool, soit sur la sécurité sociale. Quand on compare avec d'autres grands risques, justement, sur lesquels vous venez de temps en temps, ceux liés au tabac, à l'alcool, est-ce qu'il y a une approche différente, particulière, vis-à-vis donc des accidents, de cette délinquance routière qui fait, on va le rappeler quand même, hein, plus de 3000 morts, il y a eu 3477 tuants en 2016. Non mais ça a considérablement augmenté.
On est extrêmement mauvais en santé publique, comme l'État est extrêmement mauvais en gestion par anticipation des événements. On est tous toujours sur la réaction. Une fois que le risque est là, c'est vrai pour l'État. L'État, on le voit dans les catastrophes, l'État français est remarquable dans la réaction et est souvent relativement mauvais dans la prévention. On a un manque de culture de santé publique comme un manque de culture d'approche par anticipation, par prévention. Il n'y a pas dans ces mesures-là un renforcement comme il devrait y avoir, parce qu'il y a des règles dans la prévention, c'est qu'on n'en fait jamais assez. C'est jamais acquis. D'abord parce qu'il y a un renouvellement des générations. Donc il faut toujours accentuer les efforts d'éducation au milieu scolaire, les efforts en matière de communication grand public. Et ça, il n'y a rien de tout ça. Donc ça montre qu'on n'est pas encore passé dans une volonté de politique publique par anticipation. Et je pense qu'il serait grand temps. On pourra aller
et sur. Et on mettra l'accent sur la répression ou pas dans cette histoire-là?
Non, il doit y avoir une part de répression. On a vu que ça avait son efficacité. Mais d'ailleurs, on peut voir, excusez-moi de parler un petit peu économique, mais il y a une notion de gain net ou de coût marginal, comme on le veut. C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui les radars, augmenter le nombre de radars va être aussi efficace que quand on l'a fait entre 2000 et 2006? Certainement pas. On peut en effet affirmer.
Il y a 5000 radars à peu près en France.
Voilà. Mais on peut en effet affirmer que les radars ont été très efficaces pour passer du 8500 500 à 4500 morts sous Chirac qui avait été fait sur le truc. Mais au stade où on en est aujourd'hui, je pense qu'il faut se poser les questions des déterminants de la sécurité routière. Monsieur parle d'économie, il a raison. Est-ce que je rappelle que lorsqu'on augmente l'activité économique, lorsqu'on est en phase de croissance économique, il y a plus de transport, donc forcément, il y a plus de probabilité d'avoir des accidents. Sur ces 4 ans, on a eu des hausses modérées, mais en effet, ce ne sont pas des baisses. Il faut se poser la question de l'impact économique par rapport à ça. Dernier point, toujours sur un plan économique, c'est que est-ce que c'est pas par un investissement où on crée aussi du bien-être dans le réseau autoroutier qu'on va d'une part améliorer le bien-être et d'autre part diminuer le nombre d'accidents? Vous voyez qu'il y a un certain nombre de questions, à mon avis, qu'on aurait pu
justement
se poser.
Justement, François Stéphane.
Oui, je crois effectivement le terme bien-être me semble vraiment intéressant. C'est, alors, je reviens sur le sujet technologique et les évolutions. Là effectivement, on atteint un seuil. Là, on a l'impression qu'on est sur le seuil de 3500 morts. C'est 25 000 morts par an en Europe. C'est dans le monde, c'est plus d'un million de morts par an sur les routes.
Alors, il y a beaucoup de pays en développement, mais ce qui se passe en Asie, voilà, en Afrique, et puis voilà. En Europe, au Danemark. Bien sûr.
Bon, comment est-ce qu'on fait pour baisser en dessous? Le bien-être, c'est une des promesses du véhicule autonome aussi. Si on regarde aujourd'hui, je pense qu'il y a un chiffre qui est intéressant. C'est on parle de la mobilité finalement, qui est un besoin fondamental. Et aujourd'hui, plus de 80% de la mobilité en France est faite par la voiture individuelle. Hein, donc, c'est un formidable instrument de mobilité, la voiture. Bon, la mobilité, c'est aussi le train, l'avion, etc. Je pense qu'il y a un chiffre qui est intéressant à regarder pour un niveau européen. Pour 100 milliards de voyageurs kilomètres, en Europe, par an, on a à peu près 400 morts. Par le train, on en a 15. C'est un facteur de 25. C'est-à-dire que c'est 25 fois moins dangereux de voyager en train que de voyager en voiture. Alors, on ne va pas demander à tout le monde de voyager en train, bien évidemment.
À l'intérieur des régions en France,
Mais aujourd'hui, quand je prends un train, je suis sûr que je ne vais pas mourir en prenant le train. Donc, c'est pour ça qu'en accident type passage à niveau, on a 3 morts tout de suite, paf. Bon, bien sûr. Mais la voiture, on va y aller. C'est vers ça qu'on veut tendre à terme. Alors, on n'atteindra pas ces taux-là. Mais si, d'ici 10-15 ans, on arrive à diviser par 2 la mortalité automobile, c'est déjà énorme.
Philippe Mangeard.
Oui, on peut parler de mode alternatif, mais de route alternative. Il y a moins de 200 morts sur les autoroutes en France, sur les 3008.
Ouais. Ouais.
Et l'autoroute, il y a des voyageurs kilomètres par milliard. Il y a un tiers des morts sur la route qui sont des piétons et des deux roues.
On va rappeler,
ils sont pas concernés par
les piétons. 468 piétons tués en 2015, 559 en 2016. C'est-à-dire, il y en a eu 100 de plus. Hein.
On est dans l'éducation du conducteur vis-à-vis des individus fragilisés sont les piétons. Les gens qui travaillent aussi sur les autoroutes sont des piétons, ceux qui réparent, ceux qui entretiennent, et des deux roues. Il y a aussi le fait de dire, il y a des contre-exemples de la baisse de limitation de vitesse. Assez bizarre, il y a une expérimentation, je lisais un article sur à Rennes, la rocade de Rennes, on l'a fait passer pendant un an de 90 à 70. Que croyez-vous qu'il arriva? Plus d'embouteillages, plus d'accidents, plus de pollution. Ce sont des éléments factuels.
Comme quoi, le bon sens.
Hein,
même chose sur le périph' à Paris.
Le périph' à Paris, je n'ai pas les chiffres, mais sur Rennes, le préfet est revenu en arrière.
Ouais, quand même sur les limitations de vitesse, on a 40 ans d'expérience, donc il y a quand même une approche empirique du sujet qui est assez forte, et on sait bien que quand on abaisse, ne serait-ce que de quelques kilomètres heure les vitesses moyennes, on abaisse la gravité des accidents. Et donc ça a été démontré, et les expériences qui sont vraiment documentées au niveau scientifique, hein, on a l'expérience suédoise qui a quelques années, qui montre toujours le même résultat, c'est-à-dire que si on abaisse ne serait-ce que de 2-3 km heure les vitesses des véhicules, on a un gain sur la gravité des accidents. Donc c'est l'une des mesures.
Et le gouvernement espère sauver comme ça quelques 300,
le 80 km heure a fait l'objet d'une analyse a priori d'un groupe d'experts, et c'est vraiment la plus efficace dans le train de mesure qui est annoncé.
Alors justement, Édouard Philippe, ce soir disait le surplus de recettes de PV ira intégralement aux accidentés. Alors justement, le coût des accidents, on va parler des dépenses quand même, François Eckel, le coût de l'insécurité routière qui représente, alors je cite la délégation interministérielle à la sécurité routière, alors peut-être qu'ils ont additionné des choux et des carottes, je ne sais pas. Le coût pour la collectivité des accidents de la route est évalué à 40 milliards d'euros d'argent public, plus de 2% du PIB. Comment est-ce qu'on en arrive à une telle somme, justement?
Alors oui, c'est ce qu'on disait. Enfin, le chiffre officiel, en effet, est 40 milliards, auquel on peut ajouter le coût des assurances, en effet. Donc, on arrive à une,
de ce qui est, à donc, près 6 milliards, par les assurances, voilà, les assurances pour 400 000 accidents,
ouais. Voilà, presque à 50 milliards d'euros. C'est très difficile à estimer, parce que le coût de la sécurité routière, c'est d'abord le coût des morts. comment on estime-t-on le coût de la vie? Alors, il y a des estimations, il y a des chiffres officiels.
France Stratégie, l'est valu à 3 millions d'euros. Voilà, je...
3 millions d'euros.
Voilà, oui,
parce que... Moi, j'ai 1,8 million.
Oui, mais, le chiffre officiel, je crois, est de l'ordre de 3 dans les circulaires du ministère de l'Équipement. Oui. Je crois que c'est 3.
Alors, pardon. Très bien. Alors, on donne un chiffre. Alors, ça correspond à quoi? Comment est-ce qu'on calcule ça?
Il y a plusieurs façons d'estimer le coût de la vie. La première, c'est d'estimer ce que vous auriez produit si vous aviez vécu. Donc, c'est la production par tête. L'autre façon de l'estimer, c'est d'estimer le prix de la douleur pour vos proches, etc. Et pour ça, on peut prendre ce que les tribunaux accordent, aux victimes, enfin plutôt aux proches des victimes, en cas d'accident, etc. Alors, c'est très conventionnel, c'est très arbitraire, mais c'est une façon d'estimer, en effet, le coût de la vie. Et puis après, le coût des blessés, ce sont le coût de l'hospitalisation, des transports sanitaires. Enfin, on rentre dans une mécanique de calcul plus traditionnelle.
Difficile calcul quand même, Frédéric Bizard. Est-ce qu'on a une connaissance économique développée de l'accidentologie? Il vient de parler des accidents, mais bon, les accidents, on connaît les gros accidents qui nécessitent des gros moyens, des ambulances, après un traitement, etc. Mais pour les accidents légers, c'est assez mal connu en France. Les victimes blessées légèrement, elles se rendent spontanément à l'hôpital, puis elles repartent après, ou elles vont voir un médecin. Frédéric Bizard, finalement, on a du mal un petit peu à quantifier exactement combien pèse les accidents.
Bon, la spécialité de l'économie de la sécurité routière en France est très embryonnaire. C'est une jeune spécialité dans tous les pays, mais en France, il y a relativement peu d'études universitaires, de recherches universitaires dans ce sujet-là. C'était dit pour évaluer. Il y a en effet le coût du capital humain. Il y a le coût de ce qui est rémunéré par les tribunaux et les assurances. Pour le système de santé, on estime que c'est autour de 0,5% de l'ensemble des dépenses de santé, même si on a du mal à les flécher. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de 1 milliard à 1,5 milliard. Et c'est relativement stable depuis 20 ans, parce que s'il y a une baisse de la mortalité, il y a une hausse des accidentés. Il y a une espèce de transfert qui est fait. Donc, vous avez plutôt une stabilité des dépenses de santé. Sur le long terme, ce que l'on constate, c'est qu'en fait, le coût de l'insécurité routière est relativement stable. Parce qu'il y a de moins en moins de morts, mais les coûts, les accidents, les coûts matériels augmentent. Et donc, vous observez une certaine stabilité d'après les études.
Philippe Mangeard, Christophe Ramon.
Alors, je m'inscris en faux sur cette déclaration. Les chiffres concernant le coût des accidents détaillés en morts, blessés légers, blessés lourds sont parfaitement connus, reconnus au niveau européen. Je dirige une agence de notation, TK Blue, qui exprime aux donneurs d'ordre, les chargeurs, combien coûte leur transport. Il y a le coût CO2, il y a le coût NOx, le coût SOx, le coût particules, et il y a le coût accident. Et autant vous dire que l'accident, ce sont vraiment des grands débats entre plusieurs laboratoires européens qui sont autour de notre table, mais ce sont des choses très connues. La valeur de la vie, la valeur du blessé léger et du blessé lourd sont parfaitement connues, débattues certes, mais connues. Et les incidences en coût sociétal du trafic routier poids lourd, du trafic routier véhicule léger, sont parfaitement connues.
Vous avez près d'un million, entre 1 million et 2 millions de personnes qui n'ont pas de permis. Ceux-là, quand ils ont un accident, en général, ils vont ni auprès de leur assurance, ni déclarer que c'est à la suite.
Non, mais
il y a un certain nombre d'incertitudes.
La principale incidence des accidents, c'est le dégât aux autres. Ouais. Tout le monde aura compris que quand un camion sort de route et écrase des gens, le chauffeur du camion généralement s'en sort, et dans les voitures c'est aussi pareil. Je reviens aux morts piétons, aux morts de roue, etc.
Pour les morts, je suis d'accord.
Pour les blessés, et pour les blessés, donc aujourd'hui
73 000 blessés en France chaque année.
Ces chiffres-là sont connus, on travaille dessus, et donc, pour faire court, il est vrai, et je confirme, que baisser la vitesse diminue la gravité des accidents, donc sur ce chapitre-là, il y a plusieurs milliards à économiser, mais on doit débattre, on doit discuter de tous les chapitres à la fois. Parce qu'à la limite, il y aura zéro accident, zéro mort, zéro blessé, si plus personne ne bouge. Donc il faut aussi comprendre que bouger, c'est prendre des risques.
Il n'y aura plus d'activité.
Donc aujourd'hui, il y a aussi quelque chose qui me dérange dans les mesures, c'est le côté blanc ou noir. C'est 80 ou 90 partout. C'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a 1 million de kilomètres de réseau routier en France. 600 000 en communal, on n'a jamais dépassé le 60. 350 000 en départemental, où il est très difficile de dépasser le 80. Donc on va parler in fine de 12 000 kilomètres de national et de 10 000 km d'autoroute. On met de côté les autoroutes, il ne reste plus que 12 000 km sur 1 million. Et sur ces 12 000 km, Monsieur le Premier ministre a évacué immédiatement celles qui sont à double voie, de chaque côté, a évacué immédiatement celles qui sont séparées par une voie. Donc il reste quoi? Il reste quelques milliers de kilomètres. Je pense qu'il aurait été intéressant, sur ces quelques milliers de kilomètres, de faire un audit sérieux, et de dire, là, c'est pas possible de dépasser le 80, Parce que, mais là, c'est possible. Pourquoi d'un coup c'est blanc ou noir? Ça arrange pas l'économie, ça arrange pas le conducteur, ça arrange personne de faire des mesures qui sont binaires. Maintenant, demain, on va nous dire, ben, voilà, on va faire 70, parce que c'est sûr que monsieur a raison, ça fera baisser les accidents. Mais est-ce qu'on en est là?
Alors, Frédéric Bizarre et Christophe Ramon,
ils ont la parole. Clé sur l'aspect économique, quel coût d'opportunité. C'est-à-dire, est-ce que véritablement on va mettre en place ces mesures? C'est pas parce que vous mettez des panneaux à 80 km/h que vous allez avoir un respect des limitations de vitesse. Il faut augmenter la présence des gendarmes, la présence des policiers. Donc vous avez le coût d'opportunité de, pendant qu'ils vont surveiller de façon plus importante, puisqu'il va falloir faire ralentir les gens, ce qui n'est pas forcément, ça ne se fait pas de façon spontanée. Il va falloir dédier davantage de policiers et de gendarmes à ce contrôle-là, pour un gain qui, monsieur l'affirme, donc il y aura des accidents moins graves, mais qui reste relativement difficile à évaluer. Donc, l'expérience américaine est très intéressante pour ça. En deux mots, c'est que les Américains sont passés d'une limitation qui était la même pour l'ensemble des États à finalement un choix de chaque État. Et juste un point, le Montana a fait le choix de ne pas mettre de limitation dans les années 90, et parce que justement, il n'avait pas les moyens, comme c'est un très grand État, de mettre en place véritablement cette limitation. Et il s'est aperçu finalement que son nombre d'accidents n'a pas augmenté, ce qui est toujours intéressant.
Vous laissez entendre, pardon, Frédéric Bizin, qu'on dépenserait trop justement pour quelques vies, c'est ça?
Non, c'est pas ce que je dis.
Alors attendez, précisez.
Il faut s'assurer que lorsqu'on prend cette mesure-là, on mette les moyens derrière pour véritablement la mettre en place. Donc augmenter la surveillance des routes, puisque s'il faut faire baisser, il ne suffit pas de changer les panneaux, il faut faire baisser les routes. Et c'est pas forcément sur les routes où on va mettre en place cette baisse de la vitesse que l'on a le plus de surveillance. Donc voilà, est-ce que c'est pas un effet d'annonce plus que véritablement une mesure qui aura dans son application des résultats concrets?
Christophe Ramon, directeur des études à la prévention routière.
Alors, ce 80, c'est pas une règle qui concerne uniquement les routes nationales, hein, c'est une règle du code de la route. Donc, elle va s'appliquer, grosso modo, aux routes secondaires. Donc, ça représente, c'est sur les routes secondaires qu'on a les deux tiers des tués. Donc, il y a un effet statistique qui va être très important. Donc on va le constater concrètement s'il y a une baisse ou pas du nombre de tués.
François Stéphan.
Moi je crois qu'il y a un élément intéressant, c'est on parle de la mesure 80 km/h, mais en fait il y a 18 mesures.
Oui,
donc c'est un train de mesures.
C'est un train de mesures.
Et ouais. Je suis assez convaincu de l'impact psychologique. On est dans la psychologie, on parle du comportement des conducteurs.
Voilà, par exemple, donc, on parlait des piétons, donc, il y a des passages piétons sanctuarisés, des sanctions pour les automobilistes qui respectent pas ces passages.
C'est un petit peu ce qui s'est passé sous la présidence Chirac, c'est-à-dire au plus haut sommet de l'État. L'État dit, ça suffit comme ci, hein, comme disait l'autre. Et on dit, oui, on veut baisser, quoi. Et donc, on va le faire, on va mettre les moyens, probablement aussi avec la route intelligente, parce que la route intelligente, ça va être de plus en plus de radars, des caméras, à terme, ça sera automatisé. Les histoires du téléphone, ne pas téléphoner en voiture, aujourd'hui, c'est le gendarme ou c'est le policier qui vous regarde, qui vous dit, ah, monsieur, vous avez regardé votre téléphone, c'est pas vrai, etc. Demain, c'est pas dans très longtemps, hein. Ça existe déjà dans certains pays. Ça sera une caméra. Vous savez, les caméras que les Tesla et Tesla utilisent, c'est les mêmes technologies, hein, avec des millions de lignes de code à l'intérieur, avec le machine learning, l'intelligence artificielle, etc. Et donc, c'est ces caméras qui vont dire, monsieur, regardez, la caméra, elle a vu, aujourd'hui, dans Facebook, c'est ce qui se passe, hein, l'analyse d'image. Voilà. Donc, ces contrôles seront faits. Et donc, en tant que conducteur, vous me direz, j'ai pas intérêt à faire une infraction parce que ça va me coûter cher. Ça va me coûter 50 euros, 100 euros. On n'a pas envie de débourser 100 euros, hein, pour une limitation. Ça va me coûter des points dans le permis, etc. Moi, je suis assez convaincu de l'impact psychologique. Bon, on verra, hein, ce que ça donne, mais pour justement franchir ce seuil-là, ce seuil des 3500.
Alors, un petit mot, François Eckel, puis on se retrouve dans un instant.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Frédéric Bizard. Il ne suffit pas de mettre un panneau 80. Il faut que la sanction soit dissuasive si on ne respecte pas ce panneau. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité routière, mais moi, à titre personnel, j'ai toujours été surpris qu'on m'informe à l'avance quand il y avait un radar. Parce que je pense que le réflexe normal de la plupart des gens à ce moment-là, c'est de freiner et d'accélérer 2 kilomètres plus loin. Donc je pense que les radars devraient être beaucoup plus souvent mobiles et qu'on ne les connaisse pas.
Que vous avez...
Et le spécialiste des finances publiques, lui, va ajouter que lorsqu'il y a une sanction, il faudrait encore que cette sanction soit recouvrée. Alors, il n'y a pas de chiffres récents, mais j'ai le souvenir d'un rapport de la Cour des comptes qui date quand même d'il y a quelques années.
Que vous aviez peut-être rédigé vous-même.
Non, je ne vais pas rédiger. Mais je me souviens du résultat, qui était, je crois, qu'il n'y avait que 3/4, à peu près 75% du montant des amendes qui étaient vraiment recouvrées. Et en fait, ce sont les amendes simples qui sont le recouvrées, parce que vous avez une amende normale de circulation, ou d'ailleurs c'est pareil pour les PV de stationnement, etc. Si vous êtes un bon contribuable, vous la payez. En revanche, ceux qui ne sont pas des bons contribuables ou qui sont des fraudeurs patentés, etc., ils ne payent pas. Ouais. Et ensuite, quand l'administration essaye de récupérer, de recouvrer par des voies contentieuses, etc., elle n'y arrive pas.
Bon, peut-être beaucoup de bruit pour rien. On revient dans un instant. Mettons fausse route contre les accidents. On revient sur BFM Business avec les décodeurs de l'écho. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, ça vous fait évidemment réagir, hein, toutes ces mesures prises par le gouvernement, par le Premier ministre Édouard Philippe pour lutter contre la violence routière, hein, qui s'accroît, qui fait de plus en plus d'accidents, plus de morts, 3477 tués en 2016. On n'a évidemment pas encore les chiffres de 2017, la France qui n'a plus connu de hausse aussi durable, hein, depuis 1972. Alors le gouvernement a décidé d'agir assez fortement. Alors est-ce que ça sera efficace? Je ne sais pas. On en parle d'un point de vue économique quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus, le coût de l'insécurité. Sécurité routière, on n'a pas forcément une connaissance économique développée de l'accidentologie en France. C'est France Stratégie qui évaluait donc le prix d'une vie sur la route à 3 millions d'euros. Une fois qu'on sait ça, par exemple, quand on construit un rond-point, par exemple, tiens, Philippe Mangeard, quand on construit un rond-point, ou un feu rouge quelque part, bon, un rond-point, ce sont des accidents en moins, donc des vies épargnées, mais aussi peut-être des coûts d'aménagement, de construction, voire de la pollution en plus, parce que les poids lourds, etc., vont ralentir. Comment est-ce qu'on intègre le prix de la vie? Comment se fait l'arbitrage? Parce que il faut faire une évaluation maintenant pour tout projet d'investissement qui nécessite de l'argent public. Donc il faut mettre une colonne des plus, une colonne des moins. Et quand il s'agit de vie humaine, alors comment est-ce qu'on fait?
À iso-coût de la vie humaine, 1 million, 3 millions, 4 millions, si on veut réduire le nombre de décès issus de la route, je vais parler d'une chapelle que je connais bien, l'environnement, il faut réduire le nombre d'émissions de particules. 48 000 morts par an
bien,
en France.
D'accord.
Bon, ça, c'est un.
Ça, je vous parlais du rond-point.
Maintenant, le rond-point, il est fait pour quoi? Il est fait pour faire ralentir les gens.
Oui.
Mais en même temps, il a un coût économique.
Oui.
Puisqu'il fait ralentir, accélérer, plus de carburant, plus de gasoil, plus d'embouteillage. Ouais. Et puis, je suis pas convaincu qu'il n'y ait pas d'accident du tout sur un rond-point. On rentre, on sort, comme on dit. Alors que sur une ligne droite, rien ne se passe.
Donc. Mais on roule vite.
Le rond-point, tradition oblige depuis 25 ans, on les voit naître au fur et à mesure, des municipalités qui changent, des gens qui veulent faire plaisir à des riverains qui ont marre de voir les passer les voitures. Je ne pense pas qu'il y ait de réalité économique sur les ronds-points. Je pense par contre qu'il y a une réalité économique forte sur le fait de faire une troisième voie, une quatrième voie sur une route, qu'il y a une rentabilité immédiate à mettre en place des mesures d'amélioration de la technologie des véhicules sur la route. Je reviens à mes particules, c'est-à-dire que je fais une fixation. Mais si tous les camions étaient Euro 6 ou GNV, vous auriez 90 fois moins de particules venant des camions. Et ça veut dire plusieurs milliers de morts en moins. Et en plus, ces camions modernes, ils ont des systèmes de conduite, des systèmes de freinage, des systèmes de détection qui les rendent plus sécures. Donc vous baissez les accidents, mieux que la baisse de vitesse, vous baissez la pollution, moins de morts de la pollution. C'est extrêmement important de regarder les choses dans leur globalité.
L'arbitrage, François Vial, vous à la tête du site Fipeco, spécialisé dans les finances publiques, c'est un peu cynique quand même de se poser ce genre de questions.
Non, c'est pas cynique, c'est normal, parce qu'en effet, si on considère en effet que le moins plus la vitesse est faible et moins il y a d'accidents, à la limite on ne fait rouler plus personne, hein, il y aura plus d'accidents. Donc à un moment il faut s'arrêter, donc il faut arbitrer en effet entre d'un côté une baisse du nombre d'accidents et de l'autre côté le fait que la circulation va être plus longue, on va passer plus de temps dans les transports, ça va durer plus longtemps, etc. Bon, à chaque fois qu'on fait un investissement public, dans un monde idéal, on devrait procéder à ce qu'on appelle une évaluation socio-économique, dans lequel on met d'un côté le coût de cet investissement, le coût du rond-point, et de l'autre côté les gains. Les gains sous forme, on a un mort de moins, une probabilité d'un mort de moins, donc ça fait 3 millions d'euros de moins. Mais d'un autre côté, les gens vont mettre un peu plus de temps à passer, donc ils vont perdre du temps, donc ça c'est un coût, etc. Donc on devrait faire le bilan de tout ça et décider en fonction de tout ça.
Le même niveau ?
Voilà. On essaye d'évaluer tout ça. D'un côté, vous avez des coûts, oui, même niveau. D'un côté, vous avez le coût de la vie humaine, comme vous avez dit, c'est 3 millions d'euros, voilà. D'un autre côté, vous avez le coût du rond-point, c'est je sais pas combien, 2 millions d'euros, j'en sais rien. Voilà, et vous faites un bilan de tout ça. Dans la théorie, idéalement, d'un point de vue économique, c'est ce qu'on devrait faire. C'est très compliqué, parce qu'évidemment, tout ça, ces calculs sont très compliqués, mais dans la réalité, c'est pas du tout ça qu'on fait. La réalité, l'État s'oblige à faire ce genre de choses pour les grands projets d'investissement. Ouais. Il le fait pour les autoroutes, les lignes à ferroviaire à grande vitesse. Les collectivités locales ne le font jamais.
Et pourtant,
aucun investissement.
Pas toujours bien formé.
Et pourtant, c'est simple.
J'interviens, c'est très simple. C'était compliqué il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a des modèles qui tournent, qui permettent à une petite collectivité de n'importe quelle taille de faire un bilan socio-économique de n'importe quel schéma de transport. Je fais un peu de communication pour l'agence des câbles, bien évidemment, parce que c'est notre métier, mais on n'est pas les seuls. Aujourd'hui, un rond-point, c'est plus de particules. Je vais vous allez dire que je fais une fixette là-dessus. C'est pas bon pour la santé non plus. Donc il faut toujours pondérer tout ça, parce que le régime qui consiste à dire qu'il y a des décès uniquement par accident, etc., c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui des voies de circulation en France.
Vous avez raison, mais d'un point de vue d'affichage, si un maire il a plein de morts au rond-point, ça va se voir tout de suite, les morts par particules. Ça sert à quand, je ne sais pas.
Et on va travailler là-dessus.
Voilà. Oui.
Christophe, je voulais abonder dans votre sens, c'est que au niveau du réseau routier national et des autoroutes, ce sont des calculs qui sont. J'en ai vu notamment pour la construction de tunnels. C'est-à-dire qu'on va calculer le rapport coût-bénéfice d'un aménagement de sécurité routière. Par contre, effectivement, l'essentiel des routes sont gérées par les communes et les départements. Et là, il n'y a aucune norme qui s'impose pour le management de la sécurité routière.
Des élus locaux qui ne sont pas forcément bien formés aux questions de sécurité et qui pourraient être jugés responsables en cas d'accident. Et là, ils sont rotés dans une
impasse. Souvent, on veut éviter l'accident.
Juste les infrastructures. C'est une remarque tout à l'heure qui sur Twitter qui nous disait Jean-Paul qui nous dit 80 km/h, l'état du réseau routier secondaire est déplorable. Est-ce que ça explique cela? C'est vrai, ces infrastructures, elles ne se sont pas dépassées. Je cite le syndicat des équipements de la route qui nous dit une route sur deux en France est sans marquage au sol. 30 à 40% des panneaux de signalisation ont dépassé leur durée de vie, justement. Philippe Mongeau.
Sujet structurant, le financement des infrastructures.
Qui doit payer?
Il manque 2,5 milliards par an.
Comment on finance les dépenses?
Eh ben, il y a des idées. Peut-être faire contribuer les gens, non pas par l'écotaxe au kilomètre, mais peut-être par l'écotaxe à la volumétrie carbone émise. Aujourd'hui, les gens qui circulent propre, pourquoi paieraient-ils autant que ceux qui circulent pas propre? Alors, on a un double aspect. Un, on rentre de l'argent. Et deux, on privilégie les modes doux. Et on va dans le sens moins d'énergie, moins de pollution, moins de coûts globaux, moins de coûts sanitaires, moins de coûts sociétaux. Donc, il existe des solutions qui sont aujourd'hui des solutions de rupture. Il faut arrêter de ou mettre des panneaux ou compter des kilomètres. Il faut penser sur ce qui est comptabilisé aujourd'hui, c'est-à-dire la nuisance globale du transport.
Frédéric Bizard, il y a une fuite en avant, justement, en matière de sécurité routière. On veut toujours en faire plus, de telle sorte que ça soit visible. Et finalement, on n'utilise pas les bonnes armes.
Mais finalement, ceux qui décident, la réflexion de François Eckel me fait penser où il est critique sur les collectivités locales et assez bienveillant envers l'État, pas la même analyse que lui. Qui est responsable de la sécurité routière finalement et qui décide et qui est comptable de cette sécurité routière? On peut penser que l'État est responsable de la sécurité routière, c'est lui qui décide des principales actions et mesures, comme on a vu là. Mais je pense que les maires, les collectivités locales sont peut-être plus comptables politiquement de l'état de leur route. Et surtout, c'est eux qui financent les infrastructures. Alors on a vu toute le débat qu'il y a eu sur l'État et les collectivités locales, en tout cas sur le financement, ce qui a été pris en charge par l'État. Mais ça, ce sont des vrais sujets. Quelle gouvernance, finalement, il faut avoir? Est-ce qu'il ne faut pas déléguer et donner la responsabilité aux régions et laisser les régions, finalement, piloter cette sécurité routière? Puisqu'on ne peut pas, de mon point de vue, différencier les infrastructures routières de la sécurité routière. Donc il faut peut-être donner, même si l'État peut jouer un rôle de pilote général, sur les grandes lignes politiques de la sécurité routière, mais je pense que peut-être une décentralisation de cette sécurité routière permettrait de gérer avec plus de transversalité la sécurité routière. Et puisqu'on a créé des grandes régions, c'est peut-être l'occasion de le faire.
François Eckel, bonne proposition.
Je ne sais pas. Si les collectivités locales...
Non, c'est pas une affirmation. Oui,
voilà, j'ai pas de réponse.
Qui, François Stéphane,
ouais, on parle de rupture. Je pense que c'est un terme intéressant. Je pense qu'on est au-devant d'une rupture technologique majeure. Je pense qu'on a du mal... On a du mal à l'imaginer, comme on a du mal à imaginer on avait du mal à imaginer en 2000-2005 qu'on aurait tous un smartphone et qu'on fait tout ce qu'on fait aujourd'hui avec le smartphone. Je suis persuadé qu'en 2025, on aura du mal à se dire, comment on faisait avant?
Qu'est-ce qu'on peut imaginer en matière d'infrastructure? L'autre jour, il y avait là des patrons de collates.
C'est les systèmes. C'est les nouveaux systèmes de transport à base de systèmes autonomes. Donc c'est la voiture autonome, c'est le bus autonome, c'est la navette autonome. Ce que je trouve très intéressant dans les actions du gouvernement, en même temps, là, au mois de novembre, le ministère de l'économie donc a décidé de mettre en place, via le Conseil national de l'industrie, un certain nombre de mesures pour les 12 mois qui viennent. Vous voyez, c'est des actions très court terme. Il y a trois mesures. Une des trois mesures, c'est on met le maximum, on met le boost sur le plan véhicule autonome. Le gouvernement a nommé Anne-Marie Idrac, ancienne patronne de la RATP, ancienne ministre, comme haut responsable du plan véhicule autonome. Avec des investissements, avec la favorisation des expérimentations,
etc. Ce sont des véhicules sans accident? Garantie sans accident?
Mais non, on peut pas garantir aujourd'hui. Même un avion, vous savez pas garantir sans accident aujourd'hui. Un train non plus. Donc c'est réduire le nombre d'accidents.
On l'a quantifié, ça, ou pas?
On ne sait pas aujourd'hui bien. Vous avez des études.
3600 morts en 2016.
Il y a des études qui disent, même des études scientifiques qui disent, on va réduire de 90%. OK. Parce qu'ils disent, il y aura moins de véhicules. On ne sait pas. C'est systémique. C'est une approche holistique qu'il faut avoir. Donc, ça va réduire, effectivement. Mais on est au devant d'une rupture.
Christophe Ramon, la convention routière. Frédéric Bizarre, tout le monde veut prendre la parole.
On parlait de décentralisation, mais on a quand même 36 000 gestionnaires de voiries en France. C'est quand même un cas assez unique en Europe et dans le monde.
Frédéric.
Oui, il contrôle qu'une petite partie de cette sécurité routière. Mais c'est une suggestion, je sais pas. Mais la gouvernance, à mon avis, peut être vue. Alors, moi, je suis un grand convaincu des solutions technologiques et l'économie de l'innovation est devant nous et doit être généralisée. On le voit en santé et ailleurs. Mais franchement, penser que les nouvelles technologies vont régler l'ensemble des problèmes de sécurité routière et les principaux, j'y crois pas beaucoup, parce que c'est l'évolution des comportements qui vont principalement évoluer ça. Et si on regarde de façon très concrète l'innovation, est-ce qu'on a fait de la sécurité routière une économie de l'innovation ? Très honnêtement, j'en suis pas très sûr. Je vois pas tellement où est l'innovation technologique de façon généralisée aujourd'hui.
Vous avez l'impression qu'on a trop bricolé sur la lutte contre l'insécurité routière à coups de répression, radars.
On parle de la voiture autonome qui devrait arriver en 2030 et être généralisée. Je ne sais pas quand. J'espère qu'on aura toujours la liberté de choix de son véhicule. Mais je pense que les spécialistes des nouvelles technologies en matière de sécurité routière devraient se poser la question de l'intégration dès maintenant et du passage du monde d'aujourd'hui au monde de demain, jour après jour. Et pas simplement nous dire que demain les problèmes seront réglés, parce que c'est assez théorique.
On a fait fausse route contre les accidents, il n'y a pas eu de politique ambitieuse, des campagnes par-ci, par-là, de la réaction, point la ligne. Allez, François Stéphane.
Je ne suis pas compétent pour répondre à cette question. Ce que je vais dire, c'est que l'intelligence artificielle appliquée au transport, c'est ça la rupture de demain. Alors, est-ce que ça arrivera en 2022, en 2025, en 2030? Mais ça arrive.
Allez, on se dit au revoir. Philippe Mangerin,
chacun. L'accidentologie, 2002-2010, baisse continue des accidents. 2010, plateau. On s'est posé des questions. 2002-2010, c'est la technologie qui a fait baisser le nombre d'accidents.
Et
2010 est suivante. Oui. C'est l'action de la prévention du comportement qui a fait de nouveau rattraper la courbe. La France rattrape à peine cette année, c'est une courbe de descente de l'accidentologie.
François Eckhall, Philippe Eco.
Non, je n'ai rien à dire.
Sur la politique, les politiques qui sont menées, un mot pour terminer.
De l'espoir.
Mais je veux dire, on a fait fausse route.
Non, je pense qu'on va plutôt dans le bon sens. Et on regarde ce que font les meilleurs pays européens qui ont deux fois moins de tués. Donc, je pense qu'on va avoir
des
résultats.
C'est pour les autoroutes, il y aura plus de monde sur les autoroutes.
Bon, c'est très bien. Merci à tous. Merci François Eckhall, donc à la tête de son site d'information économique financière sur les finances publiques. C'est Fipeco, Philippe Mangeard, TK Blue, son agence de notation spécialisée dans le transport, dans l'environnement. Frédéric Bizarre, économiste de la santé autour de la protection sociale également. Christophe Ramon, directeur des études et recherches à la prévention routière. Et puis François Stéphane, directeur général adjoint du laboratoire d'innovation. Planche sur la voiture connectée à Saclay.
Et autonome.
Système X, voiture autonome. Oui, bien entendu, vous avez raison. Voilà, c'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très très vite. Oui, on va laisser passer plus grand, plus fort ce mercredi soir avec Stéphane Soumier. Puis on reviendra évidemment juste après.
Les décodeurs de l'écho. Sur BFM Business.